Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat au Sénégal. Un gouffre de 2,4 milliards de francs CFA plonge la Fédération sénégalaise de football dans une zone rouge critique. L'instance traverse actuellement l'une des pires crises financières de son histoire, avec un déficit de 2,4 milliards de francs CFA. Une trésorerie en chute libre et des subventions divisées par deux. Ce qui nous pose cette interrogation, le football sénégalais est-il menacé? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous inquiet? Vos réactions nous intéressent. On attend vos commentaires et analyses au standard au 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreuses réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions qu'elles répondent les journalistes de la maison RFI France 24, mais également des experts. Bonjour Oumar.
Bonjour, M. Namoury Dosso.
Vous nous appelez de Tombouctou, au Mali, la cité des 333 saints. Soyez le bienvenu.
Exact, M. Namoury. Très content de vous avoir au téléphone.
Alors, vous avez des questions au sujet des fausses informations utilisées pour glorifier le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte au Burkina Faso, et pour cause, des centaines de vidéos générées par l'intelligence artificielle sont apparues sur les réseaux sociaux afin de présenter le président burkinabé comme un héros panafricain. Oumar, pour vous répondre, nous sommes en studio avec Quang Pham, journaliste aux observateurs de la chaîne France 24. Bonjour Quang.
Bonjour.
Oumar, on écoute votre toute première question.
Ok, bonjour les spécialistes, les observateurs, voilà. On est c'est Kwan.
Bonjour.
Sur quel élément un internaute peut-il s'appuyer pour repérer ces types de fausses vidéos? Ça, c'est ma première question.
Alors, Kwan Pham vous répond, Omar.
Oui, alors ces faux clips avec des stars comme Beyoncé ou Justin Bieber qui chantent les louanges d'Ibrahim Traoré sont vraiment un phénomène massif. On a recensé 294 vidéos publiées sur 127 chaînes YouTube. Toutes ces vidéos ont été générées par intelligence artificielle.
Alors, quoi, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces vidéos créées par IA?
Alors, les IA font des erreurs qui trahissent leur travail. Dans les clips, certains personnages à l'arrière-plan, enfin dans les fous par exemple, ont un visage déformé. Les IA ont aussi du mal à produire les textes. Dans certains clips, les panneaux d'affichage sont écrits avec des caractères illisibles qui n'appartiennent à aucun alphabet connu.
Alors, Quang, quels sont vos autres conseils pour mieux identifier ces vidéos générées par IA?
Alors, vous pouvez rechercher l'origine de ces vidéos en faisant ce qu'on appelle une recherche d'image inversée par Google. Concrètement, vous allez faire une capture d'écran de votre clip, vous allez prendre l'image, vous allez la donner à Google qui va vous retourner les résultats de recherche par image. Grâce à cette fonctionnalité, on a pu retrouver l'un des auteurs de ces clips. Il s'agissait d'un créateur de vidéos générées par IA, mais qui était basé au Nigeria. On a échangé avec lui et il nous a expliqué que le prix de production d'une vidéo générée par IA était de 1 000 $. Enfin, vous pouvez aussi faire une recherche sur les artistes en eux-mêmes. Si vous allez sur le site internet officiel de Beyoncé, vous allez retrouver aucune trace d'un titre à la gloire d'Ibrahim Traoré.
En effet, il suffisait juste de vérifier. Alors, Oumar, vous avez une dernière question.
Évidemment. Quelle méthode adopter pour les identifier?
Quand femme vous répond, Oumar? Alors, Quang Pham...
Je crois que j'ai déjà répondu à cette question.
Oui, alors justement, c'est ce que nous dit un petit peu l'auditeur, quel est le message d'une certaine manière que tente de véhiculer ce genre d'image générée par IA?
Alors, on n'a pas de preuve de l'implication directe du gouvernement burkinabé dans la production de ces vidéos, mais il est clair qu'il s'agit d'une campagne coordonnée de communication qui profite aux autorités. Donc ces clips servent donc à promouvoir l'image d'Ibrahim Traoré. Le dirigeant aspire à devenir le nouveau Thomas Sankara, donc ce président burkinabé qui a été assassiné en 1987 et qui est resté dans la mémoire collective comme une icône révolutionnaire et anti-impérialiste.
Alors en fin de compte, qui est le public visé par ce genre de vidéos?
Alors Ibrahim Traoré cherche aussi à devenir populaire à l'international. Au-delà du Burkina Faso, les faux clips visent également une audience anglophone, du Nigeria, en Afrique du Sud par exemple. Et cette audience est sans doute moins au fait des problèmes internes du Burkina Faso. Le pays fait en effet face à des graves problèmes sécuritaires à cause de l'insurrection du JNIM, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Cette campagne de communication peut aussi apparaître comme un écran de fumée pour détourner l'attention des attaques terroristes qui visent le Burkina Faso.
Alors enfin, sachez que la majorité des clips a été diffusée au mois de mai, au moment où le gouvernement burkinabé a lancé une campagne de soutien à Ibrahim Traoré en organisant des manifestations en son honneur au Burkina Faso, mais également à l'étranger. Oumar, avons-nous convenablement répondu à vos interrogations ?
Vous avez convenablement répondu à ma question RFI. Merci à l'équipe d'Appel sur l'actualité. Merci aux observateurs de France 24. Merci. Les spécialistes vraiment de ces fausses vidéos.
Merci. Merci à vous, Oumar, et belle journée à vous. On remercie également Quang Pham, journaliste et observateur de France 24, pour son éclairage. Merci, Quang. Nous sommes à présent en ligne de Yaoundé, au Cameroun, avec Christophe. Soyez le bienvenu, Christophe.
Bonjour Namori Gosso, bonjour Amélie Thulé et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous m'avez précédé, hein, vous savez d'ores et déjà qu'Amélie Thulé, un journaliste au service Afrique de RFI, est en studio avec nous. Hein. Elle va répondre à vos interrogations au sujet de la situation d'Éric Tano, un ressortissant camerounais poursuivi aux États-Unis pour complot et soutien aux groupes séparatistes anglophones. Christophe, on écoute votre toute première question.
Alors, Namori, j'ai suivi sur RFI qu'un Camerounais du nom d'Éric Tano s'est rendu aux autorités américaines. Il est accusé de fournir du matériel à des groupes séparatistes anglophones. Namori, je suis Camerounais, mais je ne connais pas cette affaire. À ce sujet, j'ai quelques questions, Namori. Qui est Éric Tano? Quel est son profil? Pourquoi s'est-il rendu et que risque-t-il?
Alors, on va aller reprendre vos interrogations une par une. Hein. Christophe, Amélie Thulé vous répond. Amélie, qui est ce ressortissant camerounais?
Alors, Éric Tano Tato, c'est un homme originaire de Mamfé, donc un département de la région du Sud-Ouest, une région majoritairement anglophone du Cameroun. Il a exercé comme journaliste d'un média en ligne, puis est parti s'installer aux États-Unis. Alors, on rappelle le contexte. Au Cameroun anglophone, en 2016, grande mobilisation pacifique d'avocats et d'enseignants qui dénonce la marginalisation du système éducatif et judiciaire anglophone. Des leaders politiques locaux demandent plus de décentralisation. Certains demandent le retour au fédéralisme, mais d'autres, plus radicaux, veulent la sécession et revendiquent l'indépendance de ce qu'ils appellent l'Ambazonie. Des groupes armés alors se forment contre les forces gouvernementales de Yaoundé, s'en prennent aussi, Namori, aux civils, représentants de l'État. C'est ce que certains appellent la crise anglophone, qui dure maintenant depuis 8 ans, crise considérée, on le rappelle, comme une des moins documentées, des plus négligées au monde.
Et donc Amélie, selon l'acte d'accusation des services américains, dès avril 2018, Éric Tano Tatao, qui est donc aux États-Unis, utilise les réseaux sociaux pour relayer le discours séparatiste, mais également financer la lutte
en armée. Utilisant voilà, ses pages Facebook et son compte YouTube. Donc le résumé de l'acte d'accusation, il est disponible en ligne, Christophe, sur le site des services américains de l'immigration. Donc tout le monde, vous pouvez aller le lire. On y lit que Éric Tano Tato et ses complices ont sollicité et collecté des fonds pour fournir à ceux qu'on surnomme les Zamba Boys, armes à feu, munitions, explosifs et autres équipements destinés à faire respecter les confinements, les journées villes mortes et à mener des attaques. On y lit aussi qu'une campagne de financement, toujours à distance, hein, a été conçue pour équiper chaque Zamba Boy au Cameroun d'un fusil AK-47 et que de septembre 2018 à décembre 2020, Éric Tano Tato et ses complices ont ainsi collecté plus de 110 000 dollars qu'ils ont transférés en partie via des intermédiaires aux séparatistes basés au Cameroun et au Nigeria voisin. Par ailleurs, Éric Tano Tato aurait aussi communiqué directement avec des séparatistes sur le terrain et revendiquer personnellement des meurtres, des enlèvements et des mutilations de civils.
Et il s'agit d'une pratique hein, qu'on appelait « garing ».
Oui, semble-t-il utilisé comme expression pour désigner l'ablation des doigts, petit gari et grand gari, c'était pour les membres ou le meurtre. Éric Tano Tato appelait à s'en prendre à des personnes soupçonnées de travailler pour ou de collaborer avec le gouvernement. Exemple, fonctionnaires municipaux, chefs traditionnels ou encore même des employés de la CDC, la Cameroon Development Corporation, qui est une entreprise publique agricole.
Enfin, c'était une des interrogations de notre auditeur Christophe, qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Que risque Eric Tanotato?
Alors, Eric Tanotato, qui on a pu entendre à l'antenne qu'il s'était rendu, en fait, il n'était pas recherché parce qu'il n'était pas difficile à trouver. Il avait déjà affaire à la justice américaine dans une affaire de fraude. Il n'était donc pas incarcéré, mais déjà contraint dans ses déplacements. Donc, il s'est rendu dans le sens où il s'est simplement présenté de lui-même aux autorités. Le voilà donc inculpé d'un chef de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes armés et de 4 chefs de communication interétatiques, c'est comme ça que ça s'appelle, de menaces de préjudice. Donc, à minima, à présent, s'il est reconnu coupable d'un seul de ces chefs d'accusation, il encourt 5 ans de prison aux États-Unis. Au maximum, cela peut aller jusqu'à 20 à 30 ans de détention. D'après l'avocat qui a porté plainte contre lui, il ne faut pas s'attendre à mourir à un procès avant au moins un an et demi.
Christophe, avez-vous les réponses à vos questions ?
Merci à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci infiniment Christophe. Belle journée à vous dans la capitale camerounaise. Un grand merci également à Amélie Tulé, journaliste au service Afrique de RFI. Nous accueillons désormais Yosounon qui nous appelle de Parakou, la grande ville du nord du Bénin. Bienvenue Yosounon.
Bonjour Namori, bonjour à tous.
Alors vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la guerre au Soudan depuis avril 2023. Le Soudan est dévasté par une guerre opposant le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis le coup d'État en 2021, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdao Daglo, dit Emeti, à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide. Je rappelle que le conflit soudanais a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes, déraciné 13 millions d'autres, et provoqué une crise humanitaire majeure selon les Nations Unies. Yosounon, pour vous répondre, nous avons sollicité l'éclairage de Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et fin connaisseur de la Corne de l'Afrique. Marc Lavergne, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Yosounon, notre auditeur béninois a des questions à vous poser. Yosounon, on écoute votre première interrogation.
Alors, les États-Unis accusent l'armée soudanaise d'avoir utilisé des armes chimiques dans le conflit qui l'oppose au FSR. Ma toute première question, de quelles preuves disposent les États-Unis pour affirmer cela?
Yosounon, Marc Lavergne vous répond.
Mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, ce sont des images qui montrent en fait des caisses métalliques cabossées qui ont dû être lancées depuis des avions. Mais évidemment, compte tenu de la situation sur place, il est très difficile de faire des enquêtes sérieuses pour prouver cet usage d'armes chimiques par l'armée soudanaise contre des civils. Parce que c'est une arme, disons, de pauvre qui ne coûte pas très cher. Mais on ne voit pas bien l'intérêt qu'il y aurait à cibler des civils dans le l'occurrence, alors que d'autres moyens sont disponibles et que l'armée a repris le dessus sur les forces de soutien rapide de certaine façon. Donc elle est dans un processus un peu de reconquête du terrain.
Alors Yosounon, vous avez une autre question pour Marc Lavergne.
Absolument. Le Soudan a ratifié la Convention sur les armes chimiques. Que risque le pays si l'utilisation d'armes chimiques est avérée?
Réponse de Marc Lavergne.
Oui, je crois qu'il y a une justice internationale, effectivement, qui peut s'emparer de ce sujet. Mais dans la réalité, c'est surtout la réprobation morale de la communauté internationale, si on peut dire, qui peut jouer à l'encontre de l'armée soudanaise si c'est elle qui s'est servi de cette arme, alors qu'elle n'en avait pas un besoin évident contre une population, encore une fois, sans défense.
Alors Yosounon, vous avez une toute dernière question pour notre invité.
Évidemment. Pour finir, comment a réagi l'armée soudanaise face à ces accusations?
Marc Lavergne.
Jusqu'à présent, l'armée soudanaise, à ma connaissance, n'a pas réagi. Elle aurait un peu de mal à expliquer pourquoi elle a fait ça et justifier la nécessité de l'emploi de ces armes alors qu'elle dispose d'autres moyens sur le terrain. Est-ce qu'il s'agit d'un effet psychologique sur les civils soudanais? Est-ce que l'armée reproche aux civils de soutenir le mouvement, non pas rebelle, mais le mouvement, disons, opposé des forces de soutien rapide, qu'il ne faut pas l'oublier, ne sont pas des rebelles, ce sont des alliés de l'armée qui se sont révoltés ou qui refusent d'intégrer l'armée en réalité.
Yosounon, avez-vous toutes les réponses à vos questions?
Merci beaucoup, Namori. Tout a été clair.
Merci infiniment à vous, Yosounou. Belle journée à vous à Parakou, dans le nord du Bénin. On salue également tous nos auditeurs qui nous écoutent à Parakou sur le 106.1 FM, également à Cotonou sur le 90 FM. Un grand merci également à Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS. Enfin, pour terminer, pour conclure cette première partie d'appel sur l'actualité, nous accueillons Kassoum qui nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour, Kassoum.
Bonjour à tout le monde.
Alors Kassoum, vous avez des questions au sujet des étudiants étrangers aux États-Unis, notamment en ce qui concerne ceux qui souhaitent intégrer Harvard, la prestigieuse université américaine. Car jeudi dernier, l'établissement privé situé près de Boston s'est vu interdire d'accueillir des étudiants étrangers par l'administration Trump, ce qui pourrait priver l'institution d'un moyen de rayonnement important. Nombre d'observateurs voient dans cette décision une nouvelle escalade dans l'offensive du gouvernement américain contre l'enseignement supérieur. Kassoum, pour répondre de manière convenable à vos questions, nous avons invité Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle et auteur du livre intitulé « Les mots de Trump » aux éditions Dalloz. Jérôme Viala-Godefroy, bienvenue.
Bonjour, merci.
Kassoum, quelle est votre première question ?
D'accord. Donc, j'ai appris sur RFI que le président américain Donald Trump a retiré les droits d'accueillir des étudiants étrangers à Harvard. Alors, ma toute première question est de savoir comment l'administration Trump justifie-t-elle cette décision.
Réponse de Jérôme Viala-Godefroy.
Alors, l'argument qui a été utilisé notamment au début et qui revient là à nouveau, c'est l'argument de l'antisémitisme, notamment dans le cadre des manifestations qu'il y a eu par rapport à Gaza. Alors, il y a eu quelques débordements, effectivement, mais voilà, c'est l'argument qui est utilisé. Or, le problème, c'est que ce qui semble être assez clair maintenant, c'est qu'il s'agit en fait, en réalité, d'une instrumentalisation de l'antisémitisme. Et j'en veux pour preuve la lettre qui a été envoyée par la secrétaire à l'éducation, Linda McMahon, où en fait, elle remet en cause le financement de Harvard, mais sans aucune mention explicite d'antisémitisme. Elle critique en fait Harvard là pour le recrutement de démocrates, des programmes jugés inutiles, du wokisme. Voilà, donc Donald Trump lui-même d'ailleurs a accusé Harvard de pas être américain. Donc en fait, on est ici dans une bataille idéologique contre des lieux intellectuels jugés comme trop à gauche et trop woke par l'administration.
Enfin, Kassoum, votre dernière question.
Oui, est-elle que les étudiants étrangers déjà inscrits pourront continuer leur cursus l'année prochaine?
En effet, c'est une des questions qui revient beaucoup hein, chez nos auditeurs. Réponse de Jérôme Viala-Godefroy.
Alors, le 22 mai, le département de la sécurité intérieure a révoqué effectivement la certification d'Harvard dans le cadre des échanges, hein, de Student Exchange Visa Program. Donc, ça empêche normalement les universités de parrainer les visas F1 et J1, hein, pour les étudiants étrangers et en recherche, chercheurs internationaux. Mais le 23 mai, il y a un juge fédéral qui a accordé une ordonnance de restriction temporaire qui a bloqué donc cette décision. Et une audience est prévue le 29 mai pour déterminer si cette audience temporaire sera prolongée. Donc, jusqu'à ce que cette décision définitive soit rendue, le statut des étudiants reste précaire, mais n'a pas changé officiellement. Et le président de Harvard s'est engagé à soutenir jusqu'au bout, à être à tout faire pour soutenir les étudiants et chercheurs pour garantir l'ouverture de Harvard au reste du monde.
À noter que le président américain Donald Trump a affirmé hein, ce lundi que son administration gagnera au final son bras de fer inédit engagé avec l'université d'Harvard, à qui il veut donc interdire de recevoir des étudiants étrangers. Kassoum, êtes-vous satisfait des réponses de notre invité ?
Oui, je suis très satisfait, merci.
Eh bien Kassoum, on vous remercie également. On remercie également Jérôme Viala-Godefroy pour son éclairage au sujet de la situation des étudiants étrangers à Harvard aux États-Unis. Merci à tous et belle journée. On va bientôt passer à la deuxième partie d'Appel sur l'actualité dans une trentaine de secondes. Le débat sera consacré au Sénégal avec ce gouffre financier au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. On parle de 2,4 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport financier 2024, une trésorerie en chute libre, moins 58%. Qu'est-ce que vous inspire cette situation? Êtes-vous inquiet pour l'avenir d'un des sports les plus populaires sur la Terre, de la Teranga? On en parle juste après la dernière édition d'Afrique Matin.